À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour Laurent. Bonjour à notre invité que vous découvrirez tout à l'heure. Donc aujourd'hui, Serge n'est pas là, on le retrouvera dans la prochaine émission. Donc c'est la première mission de reprise. Après cet été un peu mouvementé en France et en Italie pour différentes raisons. Alors on ne va pas revenir en détail sur le séisme qui vient de toucher l'Italie. On rappelle simplement que trois régions ont été marquées par ce tremblement de terre. Le Latium, l'Ombrie et les Marches, surtout le Latium d'ailleurs, et notamment la ville d'Amatrice, qui était une ville qui est en montagne, qui est une jolie petite commune, et qui est aussi connue pour sa célèbre sauce, l'Amatriciana, qui accompagne les plats de spaghetti, notamment dans cette région, et qui est connue d'ailleurs hors de cette région et d'Italie. Et alors, bien sûr, une fois le moment de drames, de peines, d'émotions passées, les actions à faire commencent à se présenter. Alors les premiers, évidemment, c'était les secours. Les secouristes, d'ailleurs, on doit leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils étaient là en permanence, dans des conditions difficiles, parce que les accès en montagne ne sont pas faciles. Beaucoup des routes étaient coupées par ce tremblement de terre. Et donc après, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est une question dont on a débattu au niveau associatif et qu'on nous a posé de l'extérieur. Bon, je crois que l'urgence, c'est de ne pas se précipiter, justement, c'est d'attendre, de voir ce qui se passe. Alors, on va pas, nous, envoyer des colis, on va pas envoyer de l'argent comme ça pour rien. Tout ça doit être ciblé. Et notre association étant une association à but culturel et qui appuie aussi des initiatives scolaires, notamment, le but, c'est de faire quelque chose, bien entendu, mais de le faire dans un cadre culturel et scolaire et d'identifier les besoins au fil du temps. Et là, on pourra apporter notre aide avec des initiatives le long des mois qui viennent, sachant qu'on est en relation par le biais d'un membre de notre association, une personne de Bourgoin-Jallieu qui est originaire du Latium et dont le frère est un élu local dans une ville qui n'a pas été touchée, mais qui est très près des villes qui ont été touchées. Et ce point d'appui nous permettra, on l'espère, de faire des choses construites et utiles. Maintenant, pour la région italienne en question, les régions et ses communes, l'immédiateté va être aussi de reconstruire, ce qui n'est pas toujours très simple, et puis de loger les personnes sinistrées, qui pour le moment sont dans des baraquements de fortune, des tentes recueillies par des voisins, voisins de communes voisines. Et donc tout ça doit se préparer. Et puis l'État italien a annoncé un grand plan de prévention antisismique, puisque l'Italie est une région assez sismique, notamment le centre, et je crois que le nord l'a été aussi par le Frioul à une époque, et les Abruzzes il y a quelques années, qui font partie de cette région centrale. Le Frioul avait eu, après le tremblement de terre qui a eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années, plutôt une reconstruction assez correcte et admise comme étant bien faite. Sur la région de l'Aquila, ça a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus discuté. Il y avait déjà un plan antisismique, mais pas de grande envergure. Espérons que là, les choses puissent, à ce niveau-là, on n'empêchera jamais les tremblements de terre, de toute façon, ça c'est évident. Mais il y a une notion de prévention qui est peut-être là. Ce grand plan, espérons, apportera quelque chose à ce niveau-là. Et puis la reconstruction, espérons qu'elle pose moins de côté débats, complications administratives, comme ça a été le cas pour l'Aquila. Voilà. Sinon, cet été, bon, il y a eu aussi des nouvelles heureusement sympathiques, et notamment on en parle assez dans certains journaux. Il y a des chercheurs américains qui sont en train de se pencher avec des chercheurs italiens de l'université de La Sapienza, qui est une université italienne, et de San Diego pour les États-Unis. Et il y a un petit port de pêche au sud de Naples qui étonne tout le monde parce qu'il y a 700 habitants et il y a 86 centenaires, ce qui est quand même plus qu'étonnant. Alors pourquoi ? L'éternelle question, pourquoi ? Alors il faut savoir que ce village s'appelle Acciarolli, mais ce n'est pas la première fois qu'on en parle parce que dans les années 50, c'est dans ce village qu'avait été identifié ce qu'on appelait à l'époque la diète méditerranéenne, qui n'est pas une diète dans le fait de ne pas manger, au contraire, mais c'est une sorte de régime méditerranéen qui avait été identifié dans cette région. Puis après, on en a parlé évidemment pour la Grèce, pour certaines régions d'Italie aussi. Et alors voilà, pourquoi ces centenaires, mais qui sont vigoureux, ce ne sont pas des centenaires qui sont... qui sont dans le coin de leur maison à ne pas bouger, puisqu'ils vont à la pêche, ils marchent, ils font du jardinage. Et alors, quand on les interviewe, ils disent, bon, écoutez, nous, on mange nos produits, on mange nos lapins, on boit, ou on assaisonne avec notre huile d'olive, on mange notre poisson qui est en bas des maisons, vers une mer qui, là, est, semble-t-il, assez correcte. On prend du romarin, alors le romarin, paraît-il, est assez bon pour le cerveau, si les chercheurs le disent, moi je ne demande qu'à le croire. Et voilà, il y a dans ces centenaires aucune maladie d'Alzheimer, dans les 86 centenaires, ce qui est quand même là aussi étonnant. Alors voilà, les chercheurs sont là, ils étudient, ils font des prises de sang, ils analysent, et voilà, donc on attend les résultats, et puis espérons qu'on le sache pourquoi, puis qu'on se l'applique. Mais ça va peut-être dur de s'appliquer le même régime, parce que je crois aussi qu'ils sont dans un univers qui n'est pas très stressant. Ça, je crois que ça peut aussi aider. Voilà, bien, on va passer un premier titre, Laurent. Alors on va faire un petit retour à l'année précédente, pas l'année civile puisque c'était déjà en 2016, mais dans notre saison on va dire. On avait invité au mois de mars pour Chanson de femme Monique Tréhard, la chanteuse au Savoyard, et la jeune chanteuse de Gênes, Jua, qui est vraiment une chanteuse de qualité et qui était accompagnée par Armando Corsi, et on va les entendre dans un titre qui s'appelle « Totem et tabou ».
Ba 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 ba.
Ho letto Freud, non mi vergogno, e ho notato una scintilla di disgusto in te che osservi di nascosto. Tutte cazzate, mi ha gridato un laureato in disappunto, è sorpassato, la scienza lo dice e il risultato garantisce così. Comportamentismo, un pizzico di malcomune, mezzo gaudio e altruismo, con fondamento cromosomaticamente dimostrato, poco cinismo, il tutto molto zen, tisane, qualunquismo, equilibrismo. E per la coppia, sesso e cinema all'aperto. Ho letto Freud, non mi vergogno, e non l'ho letto con la pila di nascosto, e sul divano ho fatto un sogno. Le mie cazzate, da grandi e grosse sono diventate misurate, e se a far male alla testa è un pensiero, non prendo un Tavor, magari faccio un giro. Comportamentismo, io dico il mal comune sempre senza gaudio e all'altruismo, io preferisco un egoismo sano interessato, poco cinismo, il cuore un muscolo e l'anima un surrogato, equilibrismo, sto ben attento andar bendata giù nel vuoto. Totem e tabù, totem e tabù, giriamo da mirare. poco di mal comune, mezzo gaudio e altruismo, con fondamento cromosomaticamente dimostrato, poco cinismo, il tutto molto zen, tisane, qualunquismo, equilibrismo, e per la coppia sesso e cinema all'aperto. Cinismo, il cuore un muscolo e l'anima un surrogato, equilibrismo, sto ben attenta a non andar vendata giù nel vuoto. Totem e tabù, totem e tabù, totem e tabù. Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
Voilà, donc Totem et Tabou par Jua et Armando Corsi. On va donc faire connaissance avec notre invité, le premier de la saison, qui est Didier Mathieu de l'association Alpe BD. Alors bonjour Didier.
Bonjour.
Alors première question, Alpe BD, la signification de Alpe BD.
Alors Alpe BD, c'est en fait l'acronyme de À la page BD. Donc... On s'est posé un certain nombre de questions au moment de la création de notre association sur quel est le meilleur terme pour désigner ce que nous souhaitions faire. C'est pas très facile, on a trouvé pour une association de BD, il en existe déjà pas mal. Hein. Donc on souhaitait qu'il y ait les termes page, par exemple, pour montrer qu'on tourne des pages, mm-hmm. Et puis évidemment BD. Et puis comme on est malgré tout pas très loin dans le Rhône-Alpes des Alpes, et bien Alpe BD, ça allait pas trop mal, quoi, voilà.
Ça va effectivement bien. Alors, on peut en présenter l'association, sa date de son époque de création. Elle est purement berjalienne, hein, l'association.
Alors, c'est une association berjalienne, effectivement, qui est très très récente. Hein, elle a trois ans et demi mmh. D'existence, hein, mi-2013 à peu près. C'est en fait un rassemblement de quelques amis qui avaient déjà fait des choses dans le passé concernant la bande dessinée, mais qui sur le fond souhaitaient le faire autrement en fait. Voilà. Mm-hmm. On souhaitait aborder ça à travers des choses qu'on voit pas obligatoirement souvent. On parlera tout à l'heure d'une manifestation à venir, hein, Transalp BD par exemple, mais également. Beaucoup d'associations se consacrent à un festival, hein, par exemple. Mmh. Bon, nous, on souhaite faire ce genre de manifestation, mais pas seulement. Mmh. On souhaite avoir une vie, on va dire, toute l'année, en organisant un certain nombre d'événements liés aux auteurs. Et puis l'idée, c'est... certains connaissent mieux que d'autres, donc c'est aussi peut-être croiser nos expériences. Et puis faire connaître un peu mieux certains styles de BD aux copains de l'association ou pas.
Voilà, parce que j'imagine que dans une association, ce qui me paraît logique, chacun a, bon, a des lectures peut-être différentes. On dit lecteur, vous faites pour la BD ?
Lecteur.
Oui,
ben,
tout à fait. Et puis il veut les faire connaître aux autres. Puis si je comprends bien, des choses un peu innovantes, c'est-à-dire essayer le fait de vouloir faire vivre toute l'année une association de ce type. C'est quelque chose d'innovant finalement, parce que ça ne se résume pas à une action ponctuelle ou deux actions ponctuelles dans l'année. C'est un peu la philosophie de l'association, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Ce qui est d'ailleurs compliqué quand on déclare une association, ce que c'est INIS, mais depuis beaucoup plus longtemps, c'est réellement de trouver un objet qui corresponde à ce qu'on veut faire. J'aurais presque tendance à dire que, pour le résumer, l'idée, c'est d'une activité qui, au départ, mais comme une lecture d'un livre, d'un roman, par exemple, hein, est individuelle, le rendre peut-être un peu plus collectif. Ce qui n'est pas évident, d'ailleurs, en l'occurrence, puisque tout le monde ne souhaite pas nécessairement partager là-dessus. Mmh. Donc, c'est pas toujours évident. Nous étions au Forum des associations samedi passé, et, par exemple, une de nos amies de l'association lit, par exemple, du manga. Elle est d'une génération où elle a lu ce genre de lecture beaucoup plus que je ne l'ai fait moi, évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'on discute quand même de manga, de ce genre de culture et de ce genre de bande dessinée également. Alors après, on a tendance à aller lire un peu ou pas, évidemment, mais ça permet réellement d'échanger sur le sujet. Ouais.
Justement, le fait de parler de génération, vous avez des actions à l'intérieur de l'association envers tout public, en fait, tout âge, j'allais dire, par les actions que vous développez, même auprès des enfants, peut-être, parce que par des initiatives faites ou à venir, sans doute.
Alors, l'association est récente, donc n'a pas encore mis en œuvre toutes les idées qu'elle peut avoir en tête, évidemment. Par contre, je vais donner qu'un exemple qui est à la limite assez facile et qui est un de nos moteurs. On participe, quelques-uns d'entre nous, à des festivals, je vais dire dans toute la France, voire même parfois à l'étranger. Nous sommes allés il y a 2 ans, par exemple, en Italie, à Albisola. L'idée, c'est de mettre, évidemment, quelqu'un qui a une cinquantaine d'années à un véhicule, voilà, c'est de remplir la voiture.
D'accord.
On se déplace ensemble.
D'accord.
Celui qui n'a pas de moyens, qui a 15 ans, 12 ans. Alors après, c'est plus compliqué si c'est un plus petit. Mais on essaie de l'emmener avec nous pour lui faire découvrir effectivement ce milieu-là, rencontrer des auteurs, pouvoir échanger avec eux, obtenir parfois de belles dédicaces. Et qu'est-ce que c'est un plaisir quand on voit un gosse de 12 à 15 ans revenir avec une ou deux magnifiques dédicaces.
Voilà. Oui, ouais, j'imagine. Ouais. Et on parlait de... Et récemment, donc, au niveau manifestation, vous êtes intervenu plusieurs fois dans l'année sur la région, là, notamment au mois de juin, si je me souviens bien, sur la place... enfin, devant la Grenette, c'est ça, hein. Le nom de baptême de la manifestation.
En juin, on a fait, en relation directe avec la mairie, Place aux Bulles.
Place aux Bulles, voilà.
Voilà, l'idée, c'était d'occuper... on a sans doute été la première manifestation, même avant l'inauguration de la place du 23 août 44, en fait, hein, qui n'était d'ailleurs pas totalement terminée. Donc, en extérieur, hein, et avec 8 auteurs, effectivement, de bande dessinée. Une manifestation qui a bien fonctionné pour la période. Hein. Les mois de juin sont parfois un peu compliqués.
L'accès était peut-être un
voilà,
peu difficile
aussi.
Voilà,
c'était pas si simple dans le contexte des travaux qui étaient un peu anciens, on va dire. Voilà. Alors, l'idée, c'était progressivement, en fait, quand on est jeune association, assez peu d'adhérents ou de bénévoles, c'était d'essayer de monter en puissance, on va dire. Donc on a fait tout d'abord une première séance de dédicace fin 2013 en relation avec la librairie Majolire. Donc on a invité un auteur chez Majolire, tout simplement. En 2015, on a monté une petite manifestation avec 6 auteurs à Saint-Alban-de-Roche, donc avec Saint-Alban Animation, hein, donc sur un week-end complet, donc au mois de septembre. Donc, ce qui nous a permis de voir notre capacité à monter quelque chose, de quel niveau. Voilà. Et puis du coup, on a lancé cette opération du mois de juin, qui était un peu un intermédiaire avec ce que nous souhaitons faire maintenant.
J'ai entendu plusieurs fois le mot dédicace. J'ai l'impression que la dédicace est un moment important dans les différents salons ou festivals, je ne sais pas.
Alors, les festivals sont la plupart du temps dédiés aux dédicaces d'auteurs. Donc, il y en a beaucoup en France et Navarre, si je puis dire, hein, évidemment. C'est un peu la dédicace, c'est un peu le concert, en fait, du musicien, qu'on va dire, voilà. Et c'est, comme me disait il n'y a pas très longtemps un auteur brésilien, c'est le moment privilégié, je dirais, de rencontre avec le public. Quoi, en fait, voilà. Un certain nombre d'auteurs ne font pas ce genre de manifestation et au final ne sont pas confrontés directement
avec leur lecteur,
je dirais, au lecteur. N'ont pas un rendu, je dirais, comme une dédicace, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de très belle qualité ou simple, toute simple. Hein. Et puis on n'a pas cette minute ou ces 10 minutes ou un quart d'heure d'échange sur son travail, sur sa vie, voilà.
Privilège.
Par rapport à ça, de fait, donc dans l'association, et ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, on organise depuis 2014 des visites chez les auteurs, chez certains auteurs, alors pour le moment une à deux fois par an parce qu'on n'a pas la capacité de l'organiser plus longtemps. Donc en fait, l'idée c'est de les rencontrer. Je dirais, on parlerait d'un autre métier, on dirait dans leur lieu de travail. Donc souvent, leur lieu de travail, c'est un atelier ou bien chez eux, en fait, voilà. Donc on en est à 4 auteurs aujourd'hui que nous avons rencontrés. Et on ressort de cette rencontre, en fait, qui à nous apprend beaucoup de choses, évidemment. Également une petite interview qu'on met dans un 2 pages, que nous appelons Recto Verso, et qu'on sort. Alors pour le moment, on en a sorti un par an, mais cette année, j'escompte bien qu'on en sorte 2 et puis qu'on commence à avoir une périodicité plus soutenue, quoi, en fait. Voilà.
Très bien. Et au niveau communication, bon, vous avez un site, enfin, Facebook, je crois.
Alors, on a une page Facebook, effectivement, sur laquelle on met toute notre activité.
On peut la rappeler ?
Bien sûr. Alors, la page Facebook, c'est à la page BD, AlpBD, en fait. Hein. Et puis, vous tomberez directement sur notre page et avec toute notre actualité, en fait. Voilà.
Et une question au niveau de l'édition. Je crois que l'édition se passe bien en France, l'édition BD en France et en région aussi, peut-être. Est-ce qu'il y a des éditeurs régionaux Il y a 2-3 éditeurs régionaux qui, a priori, marchent pas trop mal.
Alors, l'édition se passe tellement bien en France qu'il y a plus de 5000 sorties par an. Hein. J'ose pas dire le chiffre au-dessus parce que c'est 5000-5500. Ça ne cesse d'ailleurs de croître. Ce qui, à la fois, est un signe, je dirais, de richesse. Hein. Ça, c'est très intéressant. Mais c'est aussi, quelque part, une difficulté, je dirais, pour les artistes eux-mêmes, quoi, en fait. Parce que, du coup, il faut multiplier, entre guillemets, le gâteau entre de plus en plus d'auteurs. Et du coup, les auteurs ne vivent pas obligatoirement très, très bien de leur activité. Quoi, voilà. Dans la région, donc, on a effectivement je veux dire petits éditeurs, alors c'est un euphémisme, hein. On a par exemple Mosquito sur Grenoble, et qui notamment sera donc au Salon Transalp BD au mois d'octobre, et qui travaille beaucoup avec des auteurs italiens sur des traductions. Alors pas que ça, évidemment, mais notamment. On a à Saint-Étienne un petit éditeur qui s'appelle Jargil, par exemple, qu'on avait invité au mois de juin, qui se débrouille très bien et avec une publication particulière et un peu hors édition traditionnelle. Donc ils font découvrir en fait des auteurs qui ne sont pas chez les autres éditeurs et des œuvres qui ne sont pas également accessibles par ailleurs.
Par ailleurs. Voilà. Eh bien, c'est très bien d'avoir écouté un premier morceau. Alors, j'ai choisi Lucio Dalla. Alors, Lucio Dalla était un grand auteur-compositeur italien, malheureusement décédé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui avait chanté dans les années 70 un titre qui s'appelle Eroi di cartone, fumetti. Bon, ben, c'est la bande dessinée. Pourquoi fumetti? C'est les petites fumées, en fait, pour imaginer les petites bulles dans lesquelles l'auteur a inscrit les dialogues. Alors, c'est aussi une référence à une émission de télé italienne des années 70 qui portait sur les héros de BD, justement. Voilà, on va l'écouter, Lucio Dalla, et vous reconnaîtrez, si vous comprenez l'italien encore plus, mais même si vous ne comprenez pas, vous entendrez des noms de héros. Charlie Brown. Voilà, Luciodala. Alors, Luciodala, c'est la transition, évidemment, avec la BD italienne, puisque Didier est là aussi pour parler d'un salon qui va se dérouler très prochainement à Bourgoin-Jallieu. Et donc, salon qui s'appelle Transalpes BD, et dont tout à l'heure on rentrera, pour lequel on rentrera dans le détail. Mais j'allais dire déjà, Didier, pourquoi la BD italienne, alors? Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de festivals ou de salons, vous, c'est un salon, hein, de BD italienne, qui sont organisés en France? Moi,
j'ai pas de chiffres en tant que tel, mais oui, il y en a beaucoup. Pour ce qui me concerne, alors c'est peut-être un peu personnel, mais j'ai une crainte que ce soit pas malgré tout une activité qui se développe. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est des activités qui sont quand même assez onéreuses. Le mode de fonctionnement d'aujourd'hui, dans un festival, c'est de ne pas rémunérer en tant que tel les artistes. Mm-hmm. Alors je parle bien artistes de bande dessinée, hein. Mm-hmm. Et simplement quelque part de les rembourser de leurs frais pour se déplacer. Mm-hmm. Voilà. Donc une des difficultés, c'est que je disais tout à l'heure que nos amis artistes ont parfois du mal à vivre de leur activité. Mm-hmm. Donc du coup, aujourd'hui, leur cheval de bataille, c'est probablement de se faire rémunérer, probablement pour ce genre d'activité. Mm-hmm. Comme on sait en parallèle, quand on est dans l'associatif, dans notre associatif ou dans d'autres, hein, d'ailleurs, que tous les systèmes de subvention sur le territoire deviennent plus compliqués que par le passé, je me dis que dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que le système sera toujours le même? Est-ce qu'il sera viable? Je suis beaucoup l'activité des festivals. Il y en a eu un, par exemple, il y a 8 jours en Normandie. Il a changé 3 fois de lieu, si je ne me trompe pas, dans l'année. Il a eu vraiment des difficultés à monter son festival.
Ouais, alors, des festivals nombreux ou salons, mais vraiment dédiés complètement à la BD italienne, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup.
À la BD italienne, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous sommes lancés là-dedans. Oui. Hein. Moi, j'ai connaissance, alors je me tromperai peut-être sur l'année, mais il y a eu en 2009 à Paris un rassemblement, alors qui a duré en fait plus que sur un week-end, hein, de 15 auteurs, où il y a eu des présentations en fait d'expositions, des œuvres de ces artistes-là, et une rencontre sur effectivement un week-end. Je ne sais plus le nom de l'activité, hein. Par contre, il y avait réellement des pointures, parce que c'était organisé à la fois par des musées, enfin, etc., au niveau parisien, quoi.
Alors, quand on est un petit peu novice, disons, on connaît Manara, on connaît Hugo Pratt, Crepax, Toppi, Magnus, mais je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs italiens qui sont publiés en France, en fait, qui sont édités en France, hein, si je ne m'abuse, dans des grandes maisons françaises. C'est le cas, hein, ou je me trompe?
C'est totalement exact, hein, et j'aurais presque tendance à dire de plus en plus. Mm-hmm. Le marché de la bande dessinée, hein, pour employer une expression particulière, en Italie ne fonctionne pas de la même manière qu'en France. Mmh. Il y a quelques éditeurs, mais surtout un qui monopolise, qui est Sergio Bonelli. Oui. Et du coup, les auteurs italiens viennent effectivement sur le marché français pour des raisons évidentes de travail, d'une part. Mmh. Hein, on leur fait des propositions. Quand ils sont doués, ils n'ont absolument aucun problème de faire une concurrence également avec leurs collègues, on va dire, français, hein, évidemment. Et puis, ils ont une faculté également à travailler d'une manière un peu différente de ce que nous pratiquons en France. Voilà.
Les grands festivals ou salons en Italie, bon, je crois qu'il y a celui de Lucca qui est assez connu.
Lucca qui a lieu fin octobre, qui est probablement le plus important, effectivement, et qui en est à une quarantaine d'années, comme Angoulême ou environ, quoi. Je crois même qu'il est plus ancien qu'Angoulême. Je parlais d'Albisola tout à l'heure. Il y avait pas très longtemps Rimini, par exemple.
Ouais. Reggio Emilia aussi,
voilà.
Je crois.
Il y en a à Napoli. Voilà.
D'accord. Alors je regardais, hein, parce que j'avais personnellement aucune idée de quand est née la BD. Ben, en France aussi, c'est la même question que je me posais, ou en Italie. Pour l'Italie, j'ai vu qu'on dit que l'appellation BD, enfin c'est ce que disent les historiens de la BD, paraît-il, hein, remonterait à 1908. et ça correspondrait à... Alors c'est vrai que j'ai vu des extraits de ce petit hebdo, ça remonterait à la création du Corriere dei Piccoli, qui était un hebdo pour enfants, en fait, destiné à la jeunesse, et qui était un magazine avec des illustrations. Et on dit que c'est de là qu'aurait été créée l'école de BD italienne. C'est d'après les historiens. Je suis incapable de dater la naissance de la BD en Italie. Enfin, c'est ce que dit notamment un historien qui s'appelle Castelli, qui semble-t-il connu dans le monde de la BD. Je ne sais pas si vous avez une idée de la création, enfin la création, l'origine et à quand remonte la BD. Mais je pense que on appelait sans doute pas ça BD ou fumetti en italien à l'époque. Hein, donc voilà.
Moi, je dirais que le dessin, enfin le dessin sous forme de bande ou de strip, puisque c'est un peu comme ça que ça a démarré, sur tous les continents, il a à peu près démarré au début du XXe siècle.
D'accord.
En France, c'est à peu près la même chose. Alors, je ne suis pas un parfait spécialiste, malheureusement, de la BD italienne et historiquement parlant, mais chez nous, c'est sorti un peu avant la Première Guerre mondiale. Et par contre, effectivement, on ne pouvait pas appeler ça BD ou fumetti, fumetto, dans le sens où on ne faisait pas encore de bulles.
Absolument.
On écrivait, en fait, le texte sous le dessin.
Sous le dessin, à fait. Voilà, on parle aussi d'El Duca, qui avait créé les éditions mondiales en 1934, qui était parti sous le fascisme, qui avait quitté l'Italie et qui avait créé notamment Oura, qui était plus un journal satirique à l'époque. Puis on avait, nous, parlé ici dans l'émission, mais au moment de Charlie Hebdo, malheureusement, du drame de Charlie Hebdo, de la revue mensuelle satirique Linus, qui avait été créée en 65 et puis qui avait ouvert après, qui a été créée par Gandini et qui avait ouvert notamment à Claire Bretécher, qui était venue parce qu'il y avait Linus et les suppléments, et Linus avait inspiré Charlie Mensuel, qui plus tard avait donné Charlie Hebdo, et Wolinski avait même dessiné dans un des suppléments. Voilà, ben on va écouter, avant de passer au salon lui-même, on va écouter un nouveau morceau. Alors c'est pas un morceau qu'on a choisi par hasard, hein. On va entendre Erika Boschiero. Alors pourquoi Erika Boschiero? Pas d'une part, c'est une très bonne chanteuse, d'autre part on va l'entendre dans une légende des Dolomites, et donc on va l'entendre en dialecte de Belluno, de la région des Dolomites. C'est Gane Agane Longane. Alors Gane Agane Longane, en fait les Anguanes, ce sont des créatures magiques. Il y a beaucoup de légendes dans les Dolomites sur ces créatures. Et pourquoi Erika Boschiero? Parce que Erika va venir chanter au festival que l'on organise au niveau musique, mais elle va être ses chansons vont être illustrées par Paolo Cossi, on en parlera tout à l'heure, qui fait partie lui des exposants et des auteurs qui seront présents au salon Transalpes BD. Donc voilà une entrée en matière avec Erika Boschiero. Oui.
Gane, longane, dei fossi triolecane, in mezzo al pano, in cao la laguna, al ciaro de luna, la roba lave, la roba di chi, la roba lave. Gane, lagane, longane, in tel vostro reame, fa caure barbane, o al mar fa le sirene. Al ciaro de luna la roba lave, la roba perché, la roba lave. Canta le anguane in te l'acqua sarinella, senza saper de pagonia e sanguanella. Che le cherose gacore car, e acqua ciara le fa tornar. Gane, agane, longane, de tete e de cune, in dota portate, iaon regalate, al ciaro de luna, la roba la ve, la roba estende la roba sughe. Gane, agane, lungane, rivale, ma sede inulta tradide, così sparisse. Al ciaro de luna la roba nave e ancora sughe di seme parche. Canta le anguane in peracqua sarinella, senza saper de pagonia e sanguanella, che le rose gaccore e acqua ciara le fa tornare. Gane, agane, longane, 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 gane, agane, longane.
Voilà, El Cabosquero. Donc Didier, maintenant, on va parler de ce fameux salon Transalpe BD. Alors, même question, pourquoi Transalpe BD, même si on a une petite idée quand même, j'imagine, pour ces deux côtés des Alpes, hein, tout
bien
simplement.
Bien sûr, donc Transalpe BD, parce qu'effectivement, on va mettre, et je vais mettre de grands guillemets au terme confrontation, on va confronter les deux types de bandes dessinées, hein, de fait, italienne et française. Que nous souhaitons inviter un maximum d'auteurs venant d'Italie, ce qui est donc le cas. Et puis il y a le BD parce que c'était, comme nous l'avons dit précédemment, l'acronyme de notre association, et du coup on résumait bien la situation en fait. Voilà.
Donc le salon va se dérouler du 14 au 16.
Alors, il est ouvert au public du vendredi 14 après-midi.
Après-midi, oui.
Le samedi toute la journée et le dimanche matin.
En fait. Le samedi et le dimanche matin, d'accord. Voilà. Et donc, il y a presque une vingtaine d'auteurs invités.
Alors, on a 17 auteurs 17. Aujourd'hui sûrs qui seront présents. Il est possible qu'on finisse à une petite vingtaine, puisqu'on a 2-3 contacts supplémentaires qui ne sont pas totalement aboutis aujourd'hui. Quoi, en fait, ouais.
Et ce sont des auteurs... Alors, il y a des auteurs italiens, il y a des franco-italiens, je crois, et il y a aussi un ou deux auteurs français.
Alors, l'idée, c'était de garder des auteurs qui travaillent purement en Italie.
D'accord.
On a, par exemple, quelqu'un comme Carlo Rispoli, qui fait de la bande dessinée depuis quelques années seulement sur le territoire italien. Mmh. Donc, l'idée, c'était, notamment parce que nous sommes avec vous, Inis, de pouvoir offrir aussi des bandes dessinées italiennes, on va dire, en langage italien. On a beaucoup des auteurs qui travaillent sur les deux territoires. Donc, je vais prendre par exemple Ico. Ico est quelqu'un qui travaille chez Sergio Bonelli, qui a tous les mois des pages qui sortent chez Bonelli et qui sort périodiquement donc des BD sur le territoire français. Sa dernière étant Durango du mois de juin.
Et c'est une BD qui est traduite, j'imagine.
Ça, c'est une BD française.
Purement française, d'accord.
Alors, qui après se retrouvera. Alors, c'est une BD franco-belge, c'est un Belge qui en est à l'origine, Svolf, mais qui est traduite en italien après.
D'accord. Bien sûr. Voilà. Sinon, ils viennent de régions différentes ou...
Ils viennent de régions totalement différentes. Du sud de l'Italie, on a des Napolitains, on a des Romains, des Vénitiens.
Comme Paolo
voilà.
Cossi,
et notamment. Puis quelques-uns.
Enfin, Paolo Cossi, il est frioulan, en fait, je crois, de mémoire. Oui. Mais il habite dans la région de Venise.
Voilà.
D'accord. Oui, on peut les citer. Hein. Il y a Eleonora Bietolini.
Alors, nous aurons Eleonora Bietolini, Paolo Cossi, Alessia De Vicenzi, Xavier Delaporte, Cinzia Di Felice, Vincent Ginda, Ico, Matteo Alemano, Nora Moretti, Francesco Mucciacito, Fred Paronuzzi, Carlo Rispoli, Gradimir Smudja, Luca Soggiu, Sergio Ticelli, Ciro Tota et Fred Volante.
Et puis, donc les auteurs qui seront là aussi donc pour les fameux instants dédicaces dont on parlait tout à l'heure. Hein.
Voilà.
Et puis, il y a aussi une expo de prévue.
Alors, nous avons une expo de prévue. Donc, notre affiche sera constituée d'un dessin de Lélé Vianello, hein, qui mm-hmm. a été un des grands collaborateurs
d'Hugo Pratt.
D'Hugo Pratt
exact.
À la Belle Époque, hein, évidemment. Mm-hmm. Donc on aura une exposition des œuvres de Lélé Vianello. Voilà.
Et je crois qu'il y a des jouets.
Alors on a également une animation qui sera faite le samedi par Déclic Ludique.
Voilà, qui est voilà. La boutique
et qui,
vers
qui
Javienne,
seront hein. à partir de jeux essentiellement italiens.
D'accord, d'accord. Donc, auteur italien, auteur franco-italien français, une exposition, une manifestation autour de jeux avec des clics ludiques. On rappelle le 14, donc c'est le vendredi après-midi, le samedi toute la journée. Quand on dit toute la journée, c'est jusqu'à 18h ou 18h30, suivant le cas.
Ce sera au moins 18h30.
Au moins 18h30. Et puis le dimanche matin, c'est le lieu, on le rappelle quand même.
Alors c'est à la salle polyvalente, donc à Bourgoin-Jallieu. Hein.
Donc la salle qui est pas loin du stade, hein, tout le monde connaît. Et puis il y a d'autres choses à rajouter sur cette manifestation.
Non, je pense.
On peut avoir le programme. Il est sur le.
Voilà,
page
à partir
Facebook.
De notre page Facebook, vous avez un lien. De toute façon, dans les jours qui viennent, on va créer un événement qui permettra de relayer comme il faut.
La presse va relayer
voilà.
aussi l'événement.
Et le lien vous emmènera sur la page d'un site dédié bande dessinée qui s'appelle Opal BD mm-hmm. et qui donnera l'ensemble de la programmation
avec
et des auteurs,
auteurs.
Invités. Voilà.
Bien. Eh bien, merci Didier. On va faire une transition. On va écouter un petit morceau de musique et qui va nous amener sur l'événement parallèle, puis pour Sans Secret, qui a été travaillé en commun avec Alpe BD, les uns étant sur la partie BD, les autres communistes sur la partie musicale. On va écouter... Vilote Adriatiche, alors par le groupe Calicanto, mais pas que, parce qu'il y a aussi Dario Marucic, il y a aussi Marino Cranjac, c'est-à-dire des Italiens, des Istriens, croates et slovènes, qui seront présents au festival dont on va parler après.
Abbandona le mania, no te abbandonaria gentil mia dama, neanche se il vedo nasce la Turchia. Se il vedo nasce cambia di prezzante, con furbo rincontrare Monte d'Oro. No te abbandonaria se il vedo nasce, la zecca la
Voilà, c'est un morceau que vous entendrez pendant ce festival. Alors le festival Estrade, il est à sa deuxième édition, la première est en 2014. Alors cette année, il va se dérouler sur 3 soirées, et parallèlement à ces soirées, il y aura des ateliers musique au conseil, chant et danse au conservatoire de Bourgoin-Jallieu, et une expo de peinture à Saint-Marcel, bel accueil. Alors, pour la première soirée, elle va se dérouler à Saint-Marcel, bel accueil, elle aussi. Et on a le jeudi 13 octobre à 20h à la salle des fêtes de Saint-Marcel, on a prévu 2 concerts. On illustrera cette soirée, enfin on a baptisé cette soirée soirée famille, parce qu'en fait ce sont 2 familles qui vont se produire. La famille qui va ouvrir le festival, c'est la famille Borne, qui est bien connue dans le Nord-Isère, qui, Philippe Borne étant une des chevilles ouvrières et président de l'association Folk des Terres Froides, qui va donc avec sa femme, sa fille et son gendre, donc Anaïg, Edith, Adrien, vont nous interpréter des chansons de la région, en fait, du Dauphiné et de notre région propre du Nord-Isère, notamment, avec des chants aussi collectés, bien sûr, dans les Alpes. La deuxième partie sera assurée par la famille Boniface, qui est une famille italienne, puisque c'est une famille du Val d'Oste, mais vous savez que le Val d'Oste est une région francophone, ils parlent les 2 langues, et on trouve des noms qui ressemblent à s'y méprendre à des noms français. Et donc là, Liliana Bertolo et Sandro Boniface sont les parents. C'était la génération folk, on va dire, qui était une vue du folk des années 80 à peu près. Et leurs fils, Rémi et Vincent, eux continuent dans la tradition de la vallée d'Aoste, dans un style un tout petit peu différent, mais ils font des concerts ensemble, et c'est bien parce que c'est aussi un concert transgénérationnel. Et donc cette famille Boniface assurera donc la deuxième partie de Saint-Marcel Bel-Accueil. Et donc c'est une soirée plutôt agréable qui sera dédiée donc aux familles. La deuxième soirée, on va l'avoir le vendredi 14 octobre à 20h à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. La première partie, ce seront Erika Boschiero, que l'on a entendu tout à l'heure avec son accordéoniste, donc Sergio Marchesini, et Paolo Cossi, qui fera partie du salon aussi BD, qui illustrera, comme on l'a souligné tout à l'heure, les chansons de Erika Boschiero, qui sont des chansons traditionnelles et des chants et légendes des Dolomites, avec quelques créations personnelles. Après Erika et ses compagnons, se produira le groupe Rhapsody 4, qui est un groupe qui nous vient de Camargue, avec Henri Maquet, Géraldine Lopez, Elsaïl et Hélène Manteau. Ce groupe, en fait, va nous proposer des chants et légendes du Rhône qui partent de Arles pour remonter jusqu'à Lyon. Ce sont des sortes de haltes musicales. Et c'est un groupe d'excellente qualité, comme tous ceux qu'on présente d'ailleurs. Et vous verrez qu'il est un groupe assez étonnant. Henri Maquet, c'est un musicien polyvalent. Il a une histoire assez drôle parce que ses parents sont belges et lui, il est né en Belgique, mais il est venu mais tout petit. Il a habité Arles et il est plus arlésien, plus provençal que les provençaux. Il chante en provençal, il parle en provençal, il construit ses instruments avec des roseaux. Enfin, c'est un personnage. Donc cette soirée-là, à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. Le samedi 15, ça sera la dernière soirée de ce festival Estrade. Elle déroulera, pardon, elle aussi à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu à 20h. Là, on va avoir deux concerts toujours. La première partie sera assurée par Marlowe et compagnie, qui nous proposeront des musiques du centre de la France et qui est composée par trois professeurs de musique traditionnelle du Conservatoire de Bourgoin-Jallieu. Laurence Dupré, qui est bien connue dans la région, violoniste de talent, Jean-Loup Sacchettini et Eric Barneau, et qui auront avec eux Marion Soulette, qui est une chanteuse et joueuse de cornemuse du centre de la France. En fait, Marlowe, c'est le duo Marion et Laurence, qui jouent souvent ensemble, et qui sont accompagnés des deux garçons, c'est pour ça que c'est Marlon et compagnie. Et puis, le dernier groupe à se produire sera le groupe Arsenal, et qui proposera un thème musical du concert qui s'appelle Oltremare, qui partira de Venise pour descendre jusqu'en Crète, tout le long de l'Adriatique. Alors, on est assez fiers d'avoir la primeur de ce spectacle, parce que ce groupe est constitué vraiment, ce sont tous des musiciens qui se connaissent, mais ce spectacle-là, il le crée pour le festival, et il compte bien le diffuser en Europe et passer dans plusieurs pays d'Europe, puisque tous ont déjà joué dans beaucoup de pays d'Europe. Alors, il est constitué, ce groupe Arsenal, et du groupe Calicante, qu'on connaît bien dans la région, avec Roberto Tombesi, Claudia Ferronato, Francesco Ganassin, Alessandro Tombesi et Giancarlo Tombesi et Alessandro Arcolin, deux membres du groupe Vruja, qui est un groupe de Slovénie, dans la partie Istrie, qui est division de Slovénie et Croatie, donc Alenka Petrarts et Marino Kranjak, et un représentant d'un Istrad Marušić, qui est un groupe croate, donc Dario Marušić, et puis des représentants du groupe Oligon, qui est un groupe grec, avec Alexandros Kapsokavadis et Simone Mongeli. Alors ce concert nous permettra de découvrir aussi des instruments comme la vela sopela d'Istrie, le lauto grec, la cornemuse de Vénétie, l'harpe de Vénétie, l'accordéon de Ténic, bien sûr, l'ocarina, etc. Et ce parcours musical avec un passage, non pas un concert chacun, mais ils se mêlent tous ensemble à ce parcours musical, et c'est ma foi très intéressant, et c'est un final qui devrait, je pense, beaucoup plaire. Parallèlement, donc, je l'ai dit, une exposition de Monique Despréaux, qui est une adhérentiniste mais qui expose depuis longtemps dans la région. Elle va exposer donc à Saint-Marcel Bel Accueil, invité par l'association ACAP, qui est l'association culture et art et patrimoine, donc la maison du patrimoine son expo est dans la maison du patrimoine de Saint-Marcel-Bel-Accueil sur la place du village, et le thème de son expo c'est jeux d'eau. Et en parallèlement donc aussi à cette expo peinture et au concert, il y aura tous les ateliers du conservatoire de Bourgoin-Jallieu, avec le matin un atelier, enfin c'est plutôt un échange qui est réservé aux présidents d'associations musicales, aux professionnels, et où il y aura Gilles Loprêtre et Gianni Esposito et Flavia Ferretti de Festa Continua, qui parleront de la danse et la rencontre des deux pays au niveau des danses populaires, dans les sociétés rurales, les danses donc traditionnelles. Et parallèlement à tout ça, il y aura des ateliers découverte ouvert à tous, avec l'accordéon diatonique le matin, la clarinette, le chant. L'après-midi, de nouveau accordéon diatonique, violon et chant, mais le matin c'est sur la Vénétie, l'après-midi c'est sur la Vallée d'Ost. Et de 14 à 18 heures, toujours au conservatoire, les danses, là, alors avec, en parallèle, un cousinage entre la tarentelle calabraise et les bourrées du massif central. Voilà. Pour tout renseignement, vous pouvez aller sur le site d'Ilinis que vous connaissez bien, italienorisère.com. Vous pouvez aller sur le site du Festival Estrade qui est es-strade-festival.com. Vous pouvez aussi avoir des renseignements téléphoniques au 07 86 62 29 77. Et vous pouvez aussi avoir des renseignements purement sur ce qui concerne les ateliers du conservatoire en vous adressant directement au conservatoire au 04 74 93 54 05. Et puis on a parlé aussi tout le long de cette émission, bien sûr, et vous irez tous, au Salon BD, Transalpes BD, dont Didier vous a donné le site de la page Facebook tout à l'heure qui renvoie à un site dédié. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On va se quitter sur un instrumental du groupe Polygon qui sera présent au dernier concert. Au revoir Laurent, au revoir Didier.
Au revoir, merci.
À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association Inis.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.